Chapitre 16. Jake resta planté devant la palissade pendant deux bonnes minutes, examinant le terrain vague de ses yeux vitreux. La commissure de ses lèvres était agitée de tics. Il sentait son espoir, sa certitude absolue, s'évaporer peu à peu. Elle était remplacée par le désespoir le plus profond et le plus amer qu'il ait jamais connu. Encore une fausse alerte, se dit-il une fois que le choc se fut suffisamment dissipé pour qu'il puisse commencer à reprendre ses esprits. Encore une fausse alerte, encore une impasse, encore un puits sec. Maintenant, les voix vont se remettre à parler, et moi, je crois bien que je vais me mettre à hurler. Et c'est très bien comme ça, parce que j'en ai marre de lutter, j'en ai marre de devenir fou. Si c'est à ça que ressemble la folie, alors qu'on en finisse, qu'on m'emmène à l'hôpital, qu'on me fasse une piqûre pour m'assommer. Je renonce. Je suis au bout du rouleau. C'est fini. Mais les voix ne se manifestèrent pas, du moins pas encore. Et lorsqu'il commença à réfléchir à ce qu'il voyait, il se rendit compte que le terrain vague n'était pas complètement vide après tout. Au milieu du chien-dent et des détritus se dressait une pancarte. Les entreprises Mills et Sombra Promotion poursuivent la rénovation de Manhattan. Bientôt, sur cet emplacement, la résidence de la baie de la Tortue. Renseignement au 555-6712. Appelez-nous, vous ne regretterez pas. Bientôt ? Peut-être, mais Jake avait des doutes. Les lettres de la pancarte avaient pâli et elle était un peu de guingois. Un tagueur du nom de Bango Skunk avait apposé sa marque en bleu fluorescent sur le dessin censé représenter la résidence de la baie de la Tortue. Jake se demanda si le projet avait été retardé ou tout simplement annulé. Il se rappela une conversation téléphonique entre son père et son conseiller financier, durant laquelle le premier avait fortement déconseillé au second d'investir dans l'immobilier.
« Je me fous des avantages fiscaux » avait-il hurlé, pour autant que Jake pouvait en juger, son père adoptait toujours le même ton pour parler affaires.
La cocaïne qu'il planquait dans son tiroir y était sans doute pour quelque chose. « Quand on t'offre un poste de télé pour t'encourager à venir examiner des plans, il y a forcément anguille sous roche. » La palissade entourant le terrain vague lui arrivait à peine au menton. Elle était couverte d'affiches. Olivia Newton-John au Radio City Music Hall, un groupe du nom de J.J. Gordon Liddy and the Groats dans un club de l'East Village, un film intitulé « La guerre des zombies » qui n'avait connu qu'une brève carrière le printemps précédent. La plupart des pancartes entrées interdites avaient été ainsi dissimulées par toutes sortes d'affiches et de posters. Un peu plus loin, la palissade était recouverte de graffitis dont la couleur jadis rouge vif s'était fanée, évoquant à présent celle des roses à la fin de l'été. Fasciné, les yeux grands ouverts, Jake murmura le message mural.
« Vois la tortue comme elle est ronde, sur son dos repose le monde. Tu veux des rires et des chansons ? Suis donc le sentier du rayon. »
Jake n'avait guère de doute sur l'origine, sinon le sens de cet étrange petit poème. Ce quartier de Manhattan était après tout connu sous le nom de « Baie de la Tortue ». Mais cela n'expliquait pas la chair de poule qui lui parcourait les chines, ni l'impression qu'il avait d'avoir trouvé un nouveau panneau sur une fabuleuse autoroute occulte. Jake déboutonna sa chemise et glissa les deux livres contre sa peau. Puis il regarda autour de lui, vit que personne ne lui prêtait attention, se hissa à la force du poignet en haut de la palissade, l'enjamba, et se laissa tomber de l'autre côté. Son pied gauche atterrit sur une pile de briques qui s'effondra sous son poids. Il sentit sa cheville se tordre et une violente douleur irradier dans sa jambe. Il tomba par terre et poussa un cri de douleur et de surprise en se recevant sur les briques, comme si on lui avait martelé les côtes à coups de poing. Il resta allongé quelques instants, reprenant son souffle. Il ne pensait pas être grièvement blessé, mais il s'était tordu la cheville, et elle allait sans doute enfler. Il rentrerait sûrement chez lui en traînant la patte. Tant pis, il ne lui restait plus qu'à serrer les dents en attendant que ça passe. Il n'avait pas de quoi se payer un taxi.
« Tu n'as pas vraiment l'intention de rentrer chez toi, n'est-ce pas ? Tes parents vont te dévorer tout cru. » Eh bien, peut-être que oui et peut-être que non. Pour autant qu'il pouvait en juger, il n'avait pas vraiment le choix. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, il allait explorer ce terrain vague qu'il avait attiré aussi sûrement qu'un aimant attire la limaille de fer. La même sensation de pouvoir l'habitait encore, et il se rendit compte qu'elle était même plus forte que jamais. Il ne pensait pas se trouver dans un terrain vague ordinaire. Il se passait quelque chose ici, quelque chose d'important. Il sentait des vibrations agiter l'air comme de l'électricité s'échappant de la plus grande centrale électrique du monde. Comme il se relevait, Jake s'aperçut qu'il avait eu de la chance. Non loin de là se trouvaient des morceaux de verre éparpillés sur le sol. S'il était tombé là-dessus, il se serait sûrement coupé. C'était la vitrine, pensa-t-il. Quand la charcuterie fine était encore ouverte, on voyait toutes sortes de viandes et de fromages dans la vitrine, et ils étaient pendus à des ficelles. Comment le savait-il ? Il n'en avait aucune idée, mais il le savait sans l'ombre d'un doute. Il jeta autour de lui un regard pensif, puis s'avança vers le centre du terrain. Un nouveau panneau l'y attendait, à moitié enfoui dans les mauvaises herbes. Jake se mit à genoux, le redressa et l'épousta. Les lettres qui étaient inscrites étaient à moitié effacées, mais néanmoins lisibles. « Tom Jerry, charcuterie fine et artistique, spécialiste en réception. » Et sous l'enseigne inscrite en lettres d'un rouge fané, cette phrase énigmatique. « Son esprit, quoique lent, est toujours très gentil. Il tient chacun de nous dans ses nombreux replis. » « C'est bien ici, » pensa Jake. « Oh oui !» Il laissa retomber le panneau, se releva et s'enfonça dans le terrain vague d'un pas lent, détaillant tout ce qui l'entourait. Le pouvoir montait en lui, à chaque pas. Tout ce qu'il voyait, mauvaises herbes, verres brisés, tas de briques, lui apparaissait avec une extraordinaire clarté. Même les paquets de chips vides lui semblaient superbes, et le soleil transformait une bouteille de bière en cylindre de feu mordoré. Jake avait conscience de son propre souffle et de la chape d'or que le soleil déposait sur toute chose. Il comprit soudain qu'il se trouvait au seuil d'un grand mystère, et il sentit un frisson de terreur et d'émerveillement le parcourir de la tête aux pieds. Tout est ici, tout est encore ici. Les herbes frôlaient son pantalon, les bardanes s'accrochaient à ses chaussettes. La brise fit volter un emballage de ring-ding devant lui. Le soleil se posa sur le papier, révélant l'espace un instant. Un terrible et superbe éclat dans ses fibres.
Tout est encore ici,
répéta-t-il à voix haute, inconscient de l'éclat qui illuminait son propre visage.
Tout.
Il entendait un bruit. Il l'entendait depuis qu'il était entré dans le terrain vague, en fait. C'était un merveilleux bourdonnement suraigu, désespérément solitaire, et pourtant merveilleux. Ça aurait pu être le bruit du vent soufflant sur le désert, mais ce bruit-là était vivant. C'était le chant d'un cœur de mille voix, pensa-t-il. Il baissa les yeux et s'aperçut qu'il y avait des visages parmi les mauvaises herbes, les buissons et les tas de briques. Des visages.
« Que faites-vous ici ? » murmura Jake.
« Qui êtes-vous ? »
Il n'obtint aucune réponse, mais crut entendre au sein du cœur un bruit de sabots frappant le sol poussiéreux, des coups de feu et des anges chantant des hosannas parmi les ombres. Les visages semblaient se tourner sur son passage. Il semblait suivre sa progression, mais n'avait aucune intention maléfique à son égard. Il apercevait la 46e rue et un bout de l'immeuble des Nations Unies de l'autre côté de la première avenue. Mais ces bâtiments n'avaient aucune importance. New York n'avait aucune importance. La ville était devenue aussi pâle que le verre. Le bourdonnement s'amplifia. Le cœur comprenait à présent un million de voix semblant monter du puits le plus profond de l'univers. Il entendit quelques noms, mais n'aurait pu les identifier.
L'un d'eux était peut-être Morton. Un autre était peut-être Cuthbert. Un troisième était peut-être Roland. Roland de Gilead. Il y avait des noms, il y avait des bribes de conversation qui auraient pu provenir d'une dizaine de milliers d'histoires entremêlées. Mais il y avait surtout ce bourdonnement sublime, cette vibration qui voulait lui emplir la tête d'un blanc étincelant. Jake faillit succomber à une joie toute puissante lorsqu'il se rendit compte que cette voix était la voix du oui, la voix du blanc, la voix du toujours. C'était un cœur céleste proclamant une affirmation unanime, et ce cœur chantait dans le terrain vague. Il chantait pour lui. Puis, enfoui parmi les bardanes enchevêtrées, Jake vit la clé, et derrière la clé, la rose.